Donc, Laurent est consultant au cabinet CRES, CRES qui veut dire Conseil Recherche Évaluation en Sciences Sociales. Il est enseignant en Master de Sciences de l'Éducation à Nanterre, au CNAM et à l'ETSUP. Alors, Laurent connaît très très bien notre champ d'activité puisque il nous a accompagnés déjà à quelques reprises. Et il vient nous évoquer aujourd'hui la question de l'évaluation et de la qualité. Alors, plusieurs défauts majeurs du dispositif mis en place par la HAS vont être évoqués, résumés et marquent son inadaptation profonde aux réalités de notre secteur. Mais il est possible pour Laurent de sortir du piège et d'en garder certains aspects positifs afin de garder cette question centrale qui est la qualité des réponses apportées aux personnes accompagnées.
Merci Bérangère, merci de m'avoir invité déjà. C'est vrai que j'ai eu un petit peu l'impression de retomber dans le temps. J'ai été intervenu dans un forum, je n'ai pas retrouvé l'année, mais 2014-2015, et où justement j'avais abordé un sujet qui éclaire assez bien ce qu'on dit là. C'est-à-dire qu'il y a un impensé dans la protection de l'enfance, qui est l'impensé de la question sociale et de la question de l'argent. Je ne suis pas le seul à le dire, mais je pense que c'est une évidence. Que c'est une question qu'on essaye de pas trop regarder, hein, y compris la question des pauvres, de la pauvreté, etc. Et de mon point de vue, c'est pour ça que la mesure, elle est intéressante, parce qu'elle est concrète, hein, et on l'a vu ce matin, elle aborde les choses de front, et notamment sur ce volet-là de la précarité. Bon. Donc ça, c'est un petit point, mais du coup, je ne suis pas très étonné, effectivement, j'ai eu la même réaction que Bérangère, en disant, j'ai déjà entendu ça quelque part. Voilà, donc c'est vrai, je vous remercie de deuxième chose de m'avoir invité sur ce thème du pouvoir d'agir, parce que c'est un thème qui finalement croise toute une série de sujets sur lesquels je travaille depuis un certain nombre d'années. Et pour moi, ça a été un petit peu un fil conducteur. Alors peut-être je vais vous le montrer, qui retrace un certain nombre de mes écrits. C'est vrai que les choses ont beaucoup changé depuis que j'ai démarré dans le secteur. Et j'ai retrouvé trois livres voilà, que j'ai commis, mais qui tracent assez bien ça et qui reprennent un peu les questions qu'évoquait Patrick Vivret ce matin sur le vocabulaire. Parce que le premier livre que j'ai fait avec mes collègues hein, de mon premier cabinet coopératif, ça s'appelait Accompagnement social et insertion. Et dans ce livre, ce qu'on montrait centralement, c'est comment on passe d'une figure de la prise en charge à une figure de l'accompagnement. Or, ça ne dit pas du tout la même chose. Hein, enfin, je vois Jonas, pardon. C'est une blague. Hein. Je sais que ce n'est pas Jonas. Qui agit, c'est évidemment pas du tout la même chose. Mais moi, quand j'ai démarré, le terme prise en charge était le terme absolument habituel, etc. Et nous avons fait une lecture dans ce livre de la question de l'accompagnement social comme étant une figure plus égalitaire de la relation, puisque dans l'accompagnement, on chemine ensemble, on réfléchit ensemble à où on va. Hein. Il y avait un peu toute une réflexion autour de ça, qui après a été reprise dans la loi 2002, c'est la deuxième étape un peu de mon parcours, enfin d'écriture, parce que j'ai fait pas mal d'autres choses, qui était sur la question des usagers. Chose aussi intéressante, ce terme usager, vous remarquez qu'aujourd'hui, on l'utilise plus beaucoup. Aujourd'hui, il a été très critiqué, mais à l'époque, il marquait un vrai progrès. Parce que l'usager, ça voulait dire les gens qu'on accompagne ne sont pas seulement des pauvres créatures qu'il faut prendre en charge, ce sont aussi des citoyens usagers d'un service. Et donc, c'est très important, hein, et la loi affirmait ça, qu'ils doivent pouvoir participer, contribuer, et la loi posait deux cadres dans les actions individuelles qu'on mène avec eux et dans l'analyse du service qui est rendu et du fonctionnement des structures. Ça va, la loi posait ces deux choses-là. Moi, j'avais fait le titre avec un point d'interrogation parce que je mesurais bien aussi que les choses n'étaient pas si simples. Hein. Dans ce domaine, il ne suffit pas de décréter la participation. Bon, je parle devant vous, c'est assez évident. Hein, pour que tout d'un coup, miraculeusement, l'histoire ne soit plus là. Hein, or, évidemment, il y a une longue histoire. Et cette année, il se trouve que, et donc, bon, voilà, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine, et que cette année, effectivement, je viens d'écrire un livre qui montre, et il y a un lien très fort, hein, avec le thème, c'est pour ça que j'étais très content que vous m'invitiez, qui est que dans le nouveau dispositif d'évaluation des structures sociales et médico-sociales, il y a une réduction et une instrumentalisation de la parole des personnes. Hein, je vais essayer de vous le montrer, mais c'est quelque chose qui est d'une évidence pour moi absolue. Voilà, alors, je ne vais pas rester là. Autre chose aussi, c'est qu'il y a énormément de changements quand je pense à cette époque. Et dedans, je trouve, aujourd'hui, j'étais sensible à ça. Il y a deux changements, en gros. Il y a d'un côté positif, enfin, il n'y a pas deux changements, mais il y a du positif. Et pour moi, la participation, le travail pair, les instances, vous voyez, comme celle dans laquelle dont vous nous parliez ce matin, alors, ce n'est pas parfait. Le CNLE, il y a maintenant une participation institutionnelle des personnes en situation de pauvreté. Enfin, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits grâce à ça. C'est très, très, très loin d'être parfait. Je pense aussi les chercheurs pairs. Hein, vous connaissez sûrement le travail qu'a fait Pierrine Robin, y compris dans la recherche avec les jeunes, hein, associer les jeunes au travail de recherche. Enfin, tout ça, pour moi, on a une zone de progrès social considérable. Et puis, de l'autre côté, il y a un peu le panorama de nos politiques publiques aujourd'hui. Je ne vais pas trop en parler, mais c'est un petit peu déprimant. Hein, la protection de l'enfance aujourd'hui est un secteur qui ne va pas bien. Hein, enfin, vous l'avez dit ce matin, moi je dois dire que ça me fait un peu mal au bide, hein, puisqu'on entend déprime, problème d'attractivité. Et puis il y a un peu ce que j'appelle une shadowisation. Vous avez la ref? Non. Ouais, ouais, parce que quand je fais ça à la fac et que je parle des shadows, souvent je me dis ah, j'ai pris un coup de vieux. C'est comme quand on parle du Minitel, tout d'un coup, ça fait mal. Il y a un peu une shadowisation des politiques publiques, avec des empilements à plus savoir qu'en faire, des trucs qui bougent tout le temps, des cadres extrêmement instables. Enfin, je passe vite. Et c'est vrai que quand j'entends qu'il faut réenchanter le travail social, ça me fait flipper. Parce que franchement, quand il y a un truc qu'il faut réenchanter, c'est qu'il est vraiment au fond du fond. Ce que je trouve un peu terrifiant, parce que c'est quand même passionnant. Moi, écoutez, j'ai beau faire ça depuis longtemps. Quand je bosse avec des équipes et tout ça, je sais pas, je trouve... Enfin, les sujets sont intéressants, c'est chouette. Enfin bon, j'ai pas trop de soucis avec ça. Et donc, bon, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Patrick Vivray, hein, parce que du coup, les cellules imaginales, les papillons, tout ça, je vais essayer d'en faire mon miel. Pour aller un peu vite, papillon, miel, j'ai raté un truc. C'est de l'impro, hein. C'est de l'impro. Ils vont me choper, c'est sûr. Daniel, tu peux avancer. Tu peux avancer. Pardon. Juste un petit point. Ce dont je vais vous parler, c'est autour de l'évaluation. Pardon. Je vais vous parler autour des pratiques d'évaluation. L'évaluation, ce n'est pas tout le sujet de la participation, loin de là. Ça va ? Donc, ce matin, on a parlé de choses beaucoup plus larges. Là, moi, je vais revenir aux questions de participation des personnes dans les projets et dans les démarches d'évaluation. Depuis la loi 2002, j'ai fait des tonnes d'évaluations de tout type de structure. Et c'est vrai que ça a eu l'énorme mérite, la loi 2002, de poser la question de la place qu'on donnait aux usagers, qu'on les appelle ou pas comme ça, mais la manière dont ils pouvaient nous dire quelque chose sur le fonctionnement des structures. Et avec mes collègues, on a accompagné un nombre incroyable de démarches dans lesquelles on parlait, alors pas nous en direct forcément, hein, mais aussi les professionnels, enfin où on créait des structures d'échange et de parole. Et j'en ai appris beaucoup de choses. Vraiment, ça a été très, très nourrissant. Et j'ai appris deux ou trois choses importantes. Alors d'abord, c'est l'intérêt et la pertinence des personnes. Écoutez, encore ce matin, j'ai trouvé que c'était vraiment extra. Enfin, c'est une source d'apprentissage, d'intérêt. Deuxième chose, c'est à mon avis très important pour améliorer les fonctionnements. Parce que vous voyez, moi, je travaille plutôt du côté des structures. Donc la question, c'est comment on peut améliorer ce qu'on fait, réfléchir à la qualité de ce qu'on fait. Et ça, évidemment, je dirais, il n'y a pas tellement d'ingrédients plus puissants que de comprendre ce que vivent les gens qu'on accompagne. Hein? Et donc ça, c'est très important, tout en rappelant quand même que c'est toujours une question située. C'est-à-dire que je refuse l'idée, il n'y a pas une parole qui serait dans les gens, qu'il faudrait juste aller pêcher. Vous voyez ? Parce qu'il y a une idée un peu à la noix comme ça, alors que la réalité, c'est que quand on parle entre humains, on se parle dans un certain contexte. Je ne sais pas qui l'a dit ce matin, une des personnes, Je ne dis pas la même chose selon que je suis devant une salle avec 200 personnes, que je parle à mon conjoint, à un pote, que je m'exprime dans le cadre d'une évaluation ou pas. Ça va ? C'est-à-dire que la parole, elle est toujours prise dans une situation d'interlocution. Et donc, c'est un peu savant comme mot tout ça, mais ça veut quand même dire que dès qu'il y a une situation de communication, il y a mon intention, mais il y a aussi comment elle est comprise ou pas, et éventuellement interprétée. Hein, et ça, on ne peut pas l'enlever, c'est fondamental. Hein, donc c'est un point qu'il ne faut jamais oublier. Et là derrière, il y a aussi une question qui est de savoir dans quelle position on met les personnes. Parce qu'en fait, il y en a une série. Vous l'avez un peu évoqué, Céline, ce matin. Parce qu'il peut y en avoir une qui est simplement celle du client mécontent. Je vais y revenir après pour critiquer les enquêtes de satisfaction. Ça va ? Mais... Enfin, tous, on est questionnés en tant que client, mais content. Voilà. Content, pas content ? Non, la vôtre, non, elle est bien. Oh, le démago. pardon, je veux bien dire. Et donc, ça, c'est un point pour moi important, parce qu'il y a aussi une autre façon de questionner. Bah, comme on a vu ce matin, témoin. Et moi, je trouve que c'est très beau. Je l'ai trouvé ce matin, je ne sais pas si elle est là. La dame qui est intervenue ce matin, c'est très intéressant, très riche, je vais en parler. Mais effectivement... On peut aussi être passeur, c'est-à-dire on bosse pour d'autres. Ce n'est pas la même posture de dire hein, « je vois que c'est d'accord », parce que c'est autre chose. Et il y a des enquêtes qu'on a faites où on mobilise les gens en leur disant « si vous deviez parler à quelqu'un qui va venir dans le service, vous lui diriez quoi ?» Et c'est vachement riche, tout d'un coup ça décale, ça dit autre chose. Ça va ? Et puis il y en a un autre, vous l'avez évoqué ce matin, on peut aussi poser les gens en force de proposition. Dites-nous ce qu'il faudrait faire pour améliorer ce qu'on fait. Oui. Et tout ça, ce n'est pas tout à fait les mêmes systèmes, hein, et ça ne nécessite pas tout à fait les mêmes outils. Alors évidemment, il n'y a pas de recette, un système dans lequel il n'y a pas de recette, il n'y a pas de truc. À mon avis, ce qui est important, c'est l'état d'esprit et le fait de chercher à mettre en place des conditions positives. Parce qu'il y a quand même beaucoup de différences. Vous voyez, dans les mandats, par exemple, dans les contextes d'intervention, ce n'est pas pareil d'intervenir, vous l'avez dit plusieurs fois, dans un cadre judiciaire ou un cadre contractuel. Hein, c'est pas pareil d'aller à l'hôtel ou d'avoir une mesure d'AEMO. Hein, on comprend assez vite que c'est pas le même type de relation qui se met en place. Or, ça génère des choses différentes. Il y a beaucoup de travaux dans lesquels on sait que les gens ont peur des représailles. Par exemple, quand vous bossez dans des EHPAD, hein, et là je fais référence pour ceux qui l'ont lu au bouquin « Les Fossoyeurs », on sait très bien que dans les EHPAD, ce qui bloque la parole souvent, c'est la peur des représailles. Si on dit des trucs, après on s'en va, notre proche, qu'est-ce qui va lui arriver s'il a dit des trucs qui étaient gênants ? C'est aussi très compliqué en protection de l'enfance. Parce que quand on questionne, je l'ai souvent vu en AEMO, quand on questionne les personnes et qu'ils savent qu'après il y a un rapport qui va quand même aller au magistrat, c'est pas si facile de s'exprimer. Dans un contexte de ce type-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Hein, et il y a toujours moyen de trouver des endroits par où passer, mais il faut quand même avoir conscience que ce n'est pas si simple. Hein, donc voilà, ça me paraît être un point important. Après, il y a aussi une très grande diversité de capacités d'expression. Il y a à la fois des gens, dans mon expérience, il y a des gens non-verbaux, hein, faut pas oublier que dans nos institutions, il y a aussi beaucoup de personnes par rapport auxquelles il faut inventer le langage pour parler. Et il y a des très belles choses hein, qui se font dans ce domaine-là. Donc c'est très chouette. Et puis il y a des gens hyper alertes avec lesquels il y a juste à ouvrir le micro et à essayer d'écouter pour que ça fonctionne. Hein, donc ça, je trouve que c'est un point important. Vous l'avez évoqué ce matin et c'est très vrai la question de la peur. Ça, c'est une question qui est un petit peu omniprésente. Je dirais plus on pratique, moins on a peur. Mais il faut quand même se lancer. Et moi, j'ai bossé dans pas mal d'endroits où c'était assez difficile, ça. Et puis, il y a une dernière chose qu'il ne faut jamais trop oublier, c'est qu'il y a une certaine dissymétrie des positions. Hein, on est quand même globalement dans un secteur des positions, des manières de causer, du look qu'on a, enfin bon, et qui forcément crée une forme d'inégalité de démarrage sur laquelle il faut bosser. Et ce que je trouve, c'est que les instances ont beaucoup travaillé sur comment on fait. Par exemple, s'il y a un travailleur social, il ne faut pas trop qu'il la ramène. Hein, il y a aussi, on ne prend pas de papier. Moi, j'ai retenu. Celui qui a des papiers, c'est celui qui est du côté, plutôt du côté du pouvoir. Donc là aussi, on peut travailler pour essayer de créer des conditions plus faciles. Alors, dernière chose pour conclure sur mon expérience, pardon, Daniel, si tu veux bien. Dernière chose, c'est ce que ça apporte. Ah non, c'est pas celle-là, je suis pas la bonne. Oui, c'est ça. Alors, je voudrais dire quand même, parce que le point le plus incroyable pour moi, c'est tout ce que ça apporte. Franchement, mes meilleurs souvenirs de tous les boulots que j'ai faits, c'est autour de ce qu'on a réussi à échanger avec les personnes. Parce qu'il y a plein de choses. D'abord, ça nous montre tout ce qu'on ne sait pas sur la vie des gens. Parce que quand on est dans l'institution, on se croit vachement malin. On croit que parce qu'on a un mandat, finalement, ça serait assez lisible ce que vivent les gens. Mais pas du tout. Et il n'y a pas un seul exemple que j'ai. Oui, dans toutes les démarches, quand on prend un peu le temps, où on n'apprend pas des choses qui nous étonnent, auxquelles on n'aurait jamais pensé, etc., mais parce qu'on n'est pas à leur place, parce qu'on n'est pas à la place des gens, et aussi, parce que c'est l'autre chose géniale, c'est la diversité des personnes. Vous voyez, ce qui est pour moi toujours une source d'émerveillement, c'est que ce n'est pas parce que vous avez une étiquette jeune aseu, travailleur en situation de handicap dans un foyer, qu'il y a de l'homogénéité, mais pas du tout. Les gens diffèrent sur plein de choses. Et ce qui est toujours magique quand on ouvre le micro sans trop préfigurer les questions, c'est à quel point cette diversité est intéressante. Vous voyez ? Et ça, pour moi, c'est quand même une conviction très importante, parce qu'elle va un petit peu à rebours de la tendance qu'on a à imaginer que c'est parce que les gens ont tel type de difficulté qu'ils sont comme ça. Et j'ai des souvenirs cuisants dans un accueil de jour où vous voyez, les gens, ils avaient dormi dehors. Hein, donc on faisait un groupe, on échangeait, etc. Il y avait des architectes, il y avait des gens, ils parlaient trois langues, il y avait des gens, ils avaient eu des vies incroyables, ils avaient fait plein d'autres métiers. Je peux vous dire qu'on ne faisait pas les malins, enfin, dans la discussion, parce que mesurer cette diversité, c'était quand même toujours quelque chose d'assez scotchant. L'autre chose aussi très intéressante, pardon, c'est après ça, c'est la phase dépressive après de mon exposé. Hein. Là, je suis encore dans la pente plutôt des trucs intéressants. L'autre chose aussi, c'est que ça permet, dans ce qu'on ne sait pas, c'est d'avoir plein d'idées sur les effets induits de ce qu'on fait. Mais en évaluation, on va appeler ça les effets. Ils peuvent être soit indésirables, soit au contraire très positifs. J'ai trouvé très intéressant dans le témoignage de ce matin que la dame, elle expliquait sur la mesure comment ce qu'elle avait travaillé avait un impact sur la régulation de la vie familiale. Moi, je trouve que c'est extra d'entendre ça. Et j'ai un autre exemple pour dire qui m'a énormément marqué. C'était dans c'est un IME pour enfants autistes qui ont un internat une semaine par mois. Et dans l'évaluation, on faisait un mode table ronde, on parle. Et je leur dis, mais pour vous, c'est quoi l'internat? Et il y a une dame, elle me regarde, l'air, mais il est débile celui-là, il ne se rend pas compte. Elle me dit, c'est pas dur, monsieur Barbe, je dors une semaine par mois. Vous voyez? Je dors une semaine par mois, c'est la semaine dans laquelle j'emmène mes autres enfants faire des trucs, c'est la semaine dans laquelle, avec mon mari, on va bouffer au resto. Et donc, tous me racontent des choses comme ça. Et pour l'équipe, vous voyez, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Puisque l'internat, il était fait avec des objectifs d'autonomie des gamins, enfin, qu'on pouvait examiner, tout ça qui était intéressant. Mais la valeur, et moi je suis un fan de Patrick Vivret de longue date, la valeur ou la force de vie de ce dispositif, c'est bien tout ce qu'il améliore au-delà de l'objectif précis, enfin, vous voyez, l'espèce d'objectif éducatif quand on fait un internat. Donc j'espère que je suis clair, mais il n'y a pas un seul domaine dans lequel, quand on écoute en ouvrant les écoutilles, on découvre plein de dimensions qu'on n'avait pas comprises, etc. Et c'est pour ça que c'est très nourrissant pour les professionnels, puisqu'ils y trouvent, alors je vais utiliser un terme qui n'est pas de moi, mais qui est de Pascal Chabot, le philosophe qui a eu la gentillesse de me faire la préface de mon livre, qui parle du merdique. Et lui, il dit, vous voyez, je pensais à Patrick, ce qu'il disait ce matin, c'est que le merdique, c'est l'opposé de la qualité. Ça va ? On a un stylo de qualité, il marche, un stylo merdique, il ne marche pas. Enfin, ça va ? Et dans nos structures, il y a du merdique. Vous voyez ? Et ce qu'on peut apprendre quand on a des formes ouvertes d'échange et de trucs, c'est toutes les formes du merdique. Je pourrais faire un livre entier, uniquement avec toutes les formes de merdique, mais pardon, c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est parce que nous sommes des humains. Nous sommes des humains en collectivité, donc on a voilà, tous les travers des humains. Enfin, c'est pas... Quand je dis ça, c'est pas grave, mais c'est vrai que le merdique, on peut le faire progresser que si on l'a nommé préalablement. Ça va ? Et donc pour ça, moi, je trouve que... Enfin, vous voyez, j'ai beaucoup réfléchi sur la question de l'évaluation. Le plus fort, c'est ce qu'on arrive à écouter, à entendre de la part des personnes. Le reste, il y a plein de côtés techniques. Bon, faut le faire, mais c'est quand même pas là qu'on peut renouveler, réinventer et se mobiliser. Parce que l'autre truc qui est très chouette, c'est aussi tout ce que les gens disent qui n'est pas dans le cahier des charges. Encore ce matin, j'ai entendu. Ah, oh, lui, il est vachement gentil, il m'a bien parlé. Vous voyez, il y a une jeune, un jour, elle me dit... on lui demande, par exemple, c'est quoi votre meilleur souvenir ? Il me dit, oh, ma référente, elle est venue me voir à mon boulot. Et elle en parle avec des yeux comme ça. Alors on se dit, oh, ça doit être super loin. Non, c'est à 2 km. Mais ça, ce n'était pas dans le cahier des charges. Donc pour elle, c'était une preuve d'attention, vous voyez, directe, humaine. Et des exemples comme ça, j'en ai dans toutes les démarches d'évaluation. Et ça, pour les professionnels, entendre ça, c'est important. Parce que des fois, sur le volet positif, des fois, sur le volet merdique. On ne donne pas d'infos, le référent a changé, il ne m'a rien dit. Enfin bon, voilà, je vais maintenant passer à la phase un peu dépressive de mon exposé. Rapide. Ouais, on va aller vite. Alors, premier truc, ce dont je parle évidemment, c'est, pardon, je veux bien passer à l'autre, c'est le nouveau système qui n'est plus de l'évaluation, je vais essayer d'être très bref, qui n'est plus de l'évaluation, mais du contrôle qualité. Ça va ? Je dis ça parce que j'en ai marre qu'on utilise mal les termes. Les organismes comme le mien, mais moi je ne fais plus ces évaluations, s'appellent maintenant des organismes d'inspection. Je vous le dis, le terme légal, on les habilite en tant qu'organismes d'inspection. Au nom d'une norme européenne, hein, vous l'avez ici, évaluation de la conformité. Ça va ? Donc, premier truc, on a changé d'exercice. Oui, et ça... On ne peut pas dire que la HAS communique de manière très limpide là-dessus. C'est même plutôt le contraire. Non, mais on vend beaucoup en disant « Mais non, vous verrez. » Enfin, vous voyez, bon, enfin, ça, tout le truc du discours un peu bidon, on va passer. Je sens que sinon, je vais m'énerver. Pardon. Ce qui est... Ouais. Merci, Daniel. Je vais réouvrir mes chakras. J'ai passé la diapo maléfique. Enfin, dans le nouveau système, pour le dire très simplement, on a énormément perdu de liberté. Puisqu'avant, vous voyez, avant, quand je faisais une évaluation d'un service de tutelle, je ne faisais pas la même chose qu'avec une équipe de prévention spécialisée ou un CER, hein, un centre éducatif renforcé. Tout ça, c'est des trucs que j'ai fait. Un centre d'enfermement renforcé. Et là aussi, vous voyez, c'est intéressant comment écouter ça ce matin, ça dit quelque chose sur la représentation. Qu'on peut en avoir. Vous voyez ? Donc dans l'ancien système qui était tout à fait imparfait, on pouvait vraiment faire des évaluations très ajustées à la nature même de ce que font les structures. Tandis que là maintenant, on a un référentiel national. C'est-à-dire, c'est vraiment la qualité vue de la Lune. Vous voyez ? Ah non, mais je vous le dis, je vous le dis comme je le pense. C'est-à-dire, là, on est montré dans la stratosphère et la manière... Bah, vous savez, pour pouvoir dire les mêmes trucs dans l'EHPAD, que vous soyez dans le cadre d'une mesure judiciaire, d'une mesure contractuelle, d'un hébergement de demandeur d'asile. Enfin, non, franchement, comment tant de gens intelligents ont-ils pu faire un truc aussi débile ? Ça reste pour moi une source d'émerveillement, enfin, mitigée, avec un certain effroi, je dois dire. Alors, et là-dedans, ils ont beaucoup vendu ça en disant... La personne est au centre. Mais la personne est au centre de rien du tout. C'est-à-dire, parce que ça, c'est vraiment le point sur lequel je veux insister. Ne me croyez pas sur parole, lisez le truc. C'est-à-dire qu'en gros, on a un système totalement fermé, 189 critères à cocher de A, de C, A, B, C, ou alors optimiser la bonne note. Enfin, si vous voulez. Pardon. Et là-dedans, il y a... la personne, alors on en interroge 3, mais ce qui est tordu, alors le seul truc qui est bien, c'est qu'avant, ce n'était pas obligatoire. Dans les anciennes évaluations, il y a des services qui ont fait des évaluations sans questionner les personnes. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était pas bien et qu'on ne devrait pas accepter ça. Donc, le seul truc, c'est qu'on le fait. Mais, en fait, on fait quoi? On demande aux personnes, c'est copié sur la compagnie Traceur en médecine, en gros, de témoigner pour dire est-ce que les professionnels font ce qu'on leur a dit de faire? Est-ce que je suis clair? C'est-à-dire que c'est un système de soumission de tous, professionnels comme personnes, aux questions qu'on vous ramène. Ça va, qui est exactement le contraire de ce que je dis qu'il faut faire, c'est-à-dire plutôt créer les conditions d'un échange ouvert à plein d'autres questions que celles que nous ramène le dispositif. Donc ce qui est assez dur, c'est ce côté-là, vous voyez, parce qu'on le vend comme ça, mais et ça m'a frappé, vous voyez, parce que comme c'est une inspection, les personnes accompagnées qu'on va désigner, donc il n'y a aucun risque, hein, c'est vous qui les désignez, donc... La probabilité que les emmerdeurs pas contents se retrouvent en face de l'évaluateur, elle est... Ah, franchement, oui, elle est nulle. Ça, si vous voulez, il n'y a pas de danger. Donc, respirez, vous êtes tranquille. Hein. Mais en même temps, moi, je voyais, j'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué. C'était un monsieur dans un IME qui avait son gamin, et il me raconte, dans le cadre de l'évaluation, il dit, écoutez-moi, ça fait 3 ans que j'avais pas de place. Cet IME-là, mon gamin, il est très dur et compliqué, ils l'ont pris. Alors, il m'a dit, écoutez, je vous préviens, si ce que je vous dis, ça a des conséquences sur la structure, en gros, je vous pète la gueule. C'est ça l'interlocution, pardon. Le monsieur se fait une certaine image. Alors, bon, je l'ai rassuré. Pas tranquille, quand même. C'était pas à Grenoble. Pardon. On peut avoir peur ailleurs qu'à Grenoble. Ben, je rigole. Hein. Mais, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est de ne pas prendre les gens... Enfin, je veux dire, si on vous dit, le service que vous avez eu tant de mal à avoir, parce qu'il y a plein de gens, il manque d'accompagnement. Parce que, vous voyez, en général, je crois que c'est vous qui avez dit, Céline, ce matin, il y a beaucoup de critiques. Mais moi, je peux vous dire... Pardon, on discute. Hein. Dans tous les gens que j'ai entendus, globalement, il y a beaucoup de sujets de mécontentement. Mais il y a quand même une approbation des pratiques d'accompagnement. Parce que quand les gens ne veulent pas être accompagnés, il y a plein de méthodes pour que ça ne fasse pas. Vous voyez, y compris en protection d'enfance, il y a plein de mesures non exercées. Donc, si vous voulez, il ne faut pas non plus... Et donc, voilà. Bon, moi, ce que je trouve, c'est que ça réduit gravement la capacité de se parler de manière ouverte. Et que c'est très paradoxal de dire... On veut développer l'autonomie des personnes. Alors là, ils ont tout le baratin. L'autodétermination, le pouvoir d'agir, machin, vous aurez tout le baratin. Dans un cadre où tout le monde est structuré par des trucs très très précis, que ce soit les professionnels ou les personnes elles-mêmes. Et quand vous l'avez fait comme évaluateur, vous rentrez dans des endroits précis du tableur. Vous voyez, moi j'ai fait plein d'évaluations où j'interrogeais tout le monde et où je rédigeais ce que les gens m'avaient raconté. Et j'ai des souvenirs... Par exemple, dans des structures qui accompagnaient des personnes prostituées, elles ne me parlaient pas de leur perception de la bientraitance. Enfin, vous voyez, de est-ce que j'ai pu... Enfin, si vous voulez, c'est pas de ça qu'on parlait. Bref, je pense que vous m'avez compris. Je vais foncer vers ma conclusion. Pour ne pas conclure. Ouais. Alors, l'autre chose, c'est vrai que... Enfin, je suis très inspiré par ce que dit Patrick Vivray sur le côté. Il faut... Il faut savoir, hein. Tu me presses. J'ai pas regardé l'heure, pardon. Pardon, Bérange. Je vais conclure paisiblement.
Voilà, conclure paisiblement.
Non, mais moi, je suis très discipliné. Hein. Quand on me dit faut pas déborder, j'essaye de pas déborder. Non, mais ce qui est important, c'est que... Vous voyez, ce que disait Patrick ce matin m'a beaucoup éclairé. Parce que, en gros, le mot, la qualité, c'est quoi? C'est une notion fondamentale. C'est la notion fondamentale pour nous orienter dans le monde. Vous voyez, enfin, dès qu'on dit, tiens, la qualité de ce qu'on a mangé, la qualité de l'intervention, la qualité de l'enseignement. Enfin, si vous regardez dans notre quotidien, nous passons notre temps à nous orienter avec la notion de qualité. Et donc, c'est une question fondamentale, la question de la qualité. Très proche de celle de l'évaluation de la valeur. Vous voyez, quand il a dit, la qualité, c'est aussi la force de vie de quelque chose. Et inversement, le merdique, c'est le... Enfin, je fais un peu des parallèles avec ce que disait Patrick Vivray ce matin. Et que cette question-là, en fait, on l'a supprimée en disant la qualité, c'est ce que dit le truc de la HAS. Oui, c'est tautologique, comme quand on dit, vous savez la formule, quand on dit l'intelligence, c'est ce que mesure le test de QI. Et bien là, j'ai envie de dire, la qualité des établissements, c'est ce que mesurent les évaluations HAS. Ce qui est absurde. Et une directrice me disait il n'y a pas longtemps, ils ont passé ça brillamment, c'est un service qui bosse très bien, elle me disait, bah, la qualité de ce qu'on fait n'est pas du tout dans ce qui est dans le rapport. Notamment parce que le rapport, si vous regardez le truc HAS, j'ai mis du temps avant de le comprendre, il dit tout le temps la personne accompagnée. Alors c'est vachement bien, on dit oh, la personne est au centre, c'est merveilleux. Mais aucun service ne bosse avec la personne. Ça n'existe pas, la personne. Il n'y en a pas deux pareils. Et dans les services, ce matin on parlait de la protection de l'enfance. Ce qui est très compliqué, c'est comment on fait face à l'extrême diversité des situations qu'on accueille. C'est là qu'elle est la qualité. C'est la capacité à pas dire il est handicapé, il a qu'à aller ailleurs. Pardon. Parce qu'il y a des services, moi j'entends un peu ça, hein, en disant mais ce jeune-là, il n'est pas pour nous. Mais attendez. Parce que double vulnérabilité, certes, mais double peine aussi, des fois. Oui, et vous avez des gamins handicapés qui poireautent dans des foyers de l'urgence, dans mon département, des fois, jusque deux ans et demi. Oui, et donc le terme « la personne accompagnée », c'est un piège. C'est-à-dire que c'est un truc où, sous prétexte d'un truc bien pensant, oui, on nous attire dans une espèce de monde pas réel, en fait, oui, le monde où on accompagne la personne accompagnée. Comme si on travaillait une pièce d'usine en disant « est-ce que j'ai bien fait toutes les étapes comme on a dit ?» Mais ça, moi, dans la vraie vie, c'est pas ça qu'on fait dans les boulots. Oui, et il y a des endroits, tous les services le savent, il y a des personnes avec qui on y arrive et il y a des personnes avec qui on n'y arrive pas. C'est ça qu'il faut évaluer et regarder. Comment je peux mieux faire avec les gens pour qui c'est pas simple ce qu'on apporte. J'espère que c'est clair ce que je vous dis là. Pour moi, c'est vraiment, c'est ça le truc essentiel. Et là, le système, il permet absolument pas de traiter ça. Puisqu'on cote, on doit coter, est-ce que la personne accompagnée a ceci, a cela. Oui. Et donc pour moi, on est entré dans un monde fictionnel, où il y a une espèce de langage, un langage étrange venu de je ne sais pas très bien où, qu'on cherche à imposer de Jupiter. Oh non, ils vont... deuxième point, bon, c'est pas non plus dramatique. Le truc HAS, bon, moi je dis c'est une absurdité, c'est nul, ça va coûter beaucoup d'argent au mauvais moment. Bon, c'est pas bien. Après, c'est pas grave non plus. Enfin, les services continueront à fonctionner. Moi, ce qui m'attriste, c'est l'idée que la question de la qualité de ce qu'on fait, qui est la question fondamentale, on dise « Oh, mais ça, c'est pas un sujet, puisqu'on a traité la qualité dans l'évaluation. » Oui. Or, la question de la qualité, ça doit être, et ça l'a toujours été. Enfin, je veux dire, même quand on a bossé ensemble à plein d'occasions, c'est quand même toujours ça qui nous mobilisait. Pas forcément bien. Oui, enfin, on n'a pas eu besoin d'attendre ce truc-là pour que ce soit la question centrale. Et donc, là où on en est, c'est qu'il n'y a pas de marche arrière. Enfin, je pense qu'on ne reviendra pas à ce qui n'était pas un bon vieux temps. C'était un bon vieux temps pourri où les professionnels avaient tout le temps raison. Moi, j'ai connu ça, hein, je n'ai pas peur de le dire. Oui, où on faisait même des projets... On disait, mais à quoi bon les questionner, on sait ce qu'ils pensent. C'est sûr, hein. Non, mais pardon, c'était banal, et moi j'ai marché là-dedans comme tout le monde, hein. Faut pas faire le malin. Avant 2002, enfin, moi, comme j'étais jeune et plein d'allants, je disais, ça serait bien de le faire. On me disait, mais non, vous vous rendez pas compte. Ouais, et puis des moments, on cédait. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'évidence a changé, mais là, on voit des formes qui détournent un peu les choses. Parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, d'abord, c'est de ne pas isoler la question de la qualité. Parce que dernier point, vous voyez, c'est que dernier reproche. Après, tu m'engueules, hein, si j'en fais encore. J'ai encore deux minutes. Ouais. Super. Dernier reproche, c'est que c'est, vous voyez, la manière dont c'est fait, ce dispositif, il isole la question de la qualité. Il ne la situe pas du tout dans l'écosystème de nos pratiques, à savoir les questions de financement, les questions de travail avec les partenaires. Tout ça, vous regarderez. Dans l'évaluation, on ne parle pas des ressources, on ne parle pas des partenaires. On ne les questionne plus, ce qu'on faisait avant. Ça va ? Donc c'est une qualité qui est renvoyée à la relation singulière entre la personne accompagnée et le service.
La chose, la personne
accompagnée. L'espèce de chose moyenne, enfin l'espèce de prototype, je ne sais pas très bien comment l'appeler, qui est là. Oui. Alors, bon, c'est vrai que un autre chemin est possible. Ce que nous avons fait, nous pouvons le défaire. On a roulé avec les énergies fossiles, on peut espérer que demain on roulera autrement. Voilà. Essayons que toutes nos cellules imaginales disent très fort, tous en même temps, c'est pourri ce truc, on n'y croit pas, il faut faire autrement. On pourrait espérer qu'un jour il y a un effet de masse. Bon, moi c'est pour ça que je me démène, pour essayer de raconter ce truc-là, parce que je trouverais ça intéressant. Mais dernière chose, à ne pas oublier, c'est que participer, échanger, ça n'a d'utilité en vrai que si on prend du temps pour comprendre à la fois ce qu'on nous dit, mais aussi ce qu'on peut faire. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Oui, donc ce qui est important, et moi je le vois bien dans plein de choses que j'ai faites, là où ça a été utile, c'est quand on a dit, tiens, on prend le temps, ils nous ont dit des trucs, les gens, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et il y en a un qui m'a frappé, c'était dans un CHRS, un monsieur très content de l'équipe, ils étaient vachement gentils, et en passant, il dit, c'était intéressant, il dit, moi ce qui est douloureux, c'est que je ne peux pas accueillir mon fils. Et ça, si vous voulez, alors, je ne vais pas parler de la satisfaction, mais bon, lui, il était content, il trouvait que les gens étaient bien, etc. Mais ça, vous voyez, on a pris le temps d'y réfléchir avec l'équipe. En disant, mais vous en pensez quoi, le fait que son fils ne peut pas venir le voir? Puis au bout d'un moment, tout le monde a dit, mais c'est pas un peu déconnant, ça? Relisons, qu'est-ce qu'on avait écrit dans le projet? Ah oui, on avait écrit insertion, enfin, on avait écrit des tas de trucs. On se dit, mais c'est déconnant. Et donc, une personne, et ça, c'est l'effet minoritaire, une personne qui avait dit ça, ça a fait réfléchir toute l'équipe. Et ce qui a été mis en place, c'est, alors ça a été long, mais aménager, libérer un lieu, permettre, enfin créer des conditions qui facilitent la chose, aider la personne sur le plan judiciaire, puisqu'il y avait souvent des contraintes de protection de l'enfance, etc. Et vous voyez, ce qui est important, c'est surtout ça, c'est de prendre le temps. Parce que les machins où on interroge les gens pour remplir les cases d'un tableur qui lui-même va remplir une cible, l'idée que ça ferait changer quoi que ce soit, c'est juste totalement bidon. Donc ne nous résignons pas. Merci. Okay, ça va.